Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue. Et chose promise, chose due, nous continuons dans l'élaboration de cet ordinaire de messe que nous avons commencé, d'abord avec le Kyrie, puis ensuite avec le Gloria, et aujourd'hui vient le tour tant attendu du Sanctus. Alors avant de commencer à parler musique, je vous prie de bien vouloir m'excuser, les auditeurs qui me connaissent déjà depuis un an savent que régulièrement je tombe un peu malade, je pense que vous l'entendez, je suis encore malade, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je vous promets que cela n'altérera en rien les propos que je vais vous tenir, et de toute façon la musique parlera d'elle-même, donc nous n'aurons pas à nous préoccuper de cela. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un chef-d'œuvre. Parmi les chefs-d'œuvre, et ensuite bien sûr, une autre œuvre qui servira d'élément de comparaison afin de voir comment les siècles peuvent transcender la musique et surtout comment elles peuvent exprimer une pensée, une même pensée, mais qui se traduit différemment. On va commencer par un monument de la musique classique, et je veux parler d'un extrait de la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, vraiment le sommet de l'art du maître de Leipzig, vraiment une œuvre qui a une place totalement à part dans la façon dont Bach a pu écrire de la musique, à plus d'un titre, non seulement parce que ça fait partie de l'un de ses chefs-d'œuvre, mais en plus parce que le Sanctus en tant que tel n'a pas d'abord fait partie de cette fameuse messe en si. Il a été composé bien avant, dans la période de Noël, donc c'est tout à fait quelque chose de particulier dans le cœur de Bach, qu'il a beaucoup retravaillé en fait, tout au long de sa vie, et qui finalement a pu l'inclure dans cette messe en si, et finalement lui trouver une cohérence avec l'entièreté de l'œuvre. Alors si je vous dis que c'était dans le temps de Noël, c'est parce que c'est important. La dernière fois, quand je vous parlais du Gloria, je vous disais que c'était un chant angélique. Vous savez, avec les anges qui s'exclament. Et on retrouve finalement un petit peu la même chose dans un Sanctus, puisque vous allez vite le comprendre, en fait, ce sont le ciel et la terre qui acclament la sainteté du Seigneur. Et donc vous avez une partie totalement angélique, vous allez vite le comprendre, et une partie beaucoup plus terrestre, là aussi symbolisée différemment dans la musique. Alors, il s'agit donc d'un Sanctus qui n'est pas dans la tonalité si mineure, hein, qui est plus intimiste, plus triste. D'ailleurs, la majorité de la messe en si mineur n'est absolument pas en si mineur. Là, on va être dans le relatif, donc la Ré majeur. Ré majeur, c'est une tonalité éclatante. Et quoi de plus triomphal qu'une tonalité éclatante? Et de la même manière, dans l'instrumentation, vous allez voir que tout est fait pour faire référence à la gloire de la sainteté de Dieu. Alors, avant de pouvoir vous parler de l'extrait que nous allons écouter, qui sera interprété par les chanteurs de John Eliot Gardiner, du Monteverdi Choir, je vais vous lire un extrait du livre extraordinaire « Musique au Château du Ciel » de ce même John Eliot Gardiner. Je vous conseille à tous de vous le procurer si vous aimez la vie du cantor. Et je vais simplement vous lire un extrait qui se rapporte à ce fameux Sanctus. Le Sanctus, avec son fracas angélique des cloches d'église pour célébrer la victoire finale sur la mort, son instrumentation elle-même comprend une augmentation et une expansion des forces utilisées jusqu'alors. Le trio des trompettes, des hautbois, un troisième hautbois faisant son apparition pour la première fois, et des cordes supérieures, est rejoint à présent par un double trio de lignes vocales, malgré la nouvelle façon qu'a Bach de les regrouper par paire. Ceci est un souvenir des six ailes des séraphins chez Isaïe, pour lui avoir donné l'idée de cet arrangement à six voix, deux pour se couvrir le visage, deux pour se couvrir les pieds, et deux pour voler. Donc vous voyez bien qu'il s'agit presque là d'un hymne séraphique, angélique, qui symbolise véritablement la sainteté de Dieu. Vous allez voir que effectivement ce côté par trois et par deux, qui est assez ambivalent finalement, c'est-à-dire qu'on va avoir tout ce côté de la Sainte Trinité, bien entendu, qui de ces chiffres trois qui correspond bien entendu à Dieu, mais qui est regroupé par paire, comme si on avait toujours cette dualité, mais finalement qui se complète entre le ciel et la terre. Donc vous allez voir que tout de suite l'instrumentation est très large, avec les coups de timbales et les trompettes éclatantes qui annoncent la gloire de Dieu et sa sainteté, et bien entendu dans le Sanctus, vous allez avoir ces voix aiguës, ces voix des sopranes et des femmes en général, qui se regroupent, qui font comme une espèce de cercle infini. Comme si on était déjà dans les sphères célestes. Et c'est là où, effectivement, on peut avoir cette idée des séraphins qui chantent avec ces voix aiguës, presque comme si c'était des enfants qui chantaient, puisque la représentation des anges se fait souvent par les enfants. Mais là, il y a vraiment quelque chose de tout à fait symbolique. Je tiens à vous dire, avant qu'on écoute l'extrait, qu'il s'agit aussi d'une œuvre très particulière. Là, je parle de la globalité de cette fameuse messe en si mineur, parce qu'il s'agit d'une œuvre catholique. Et quand on parle de Jean-Sébastien Bach, bien entendu, on pense avant tout au protestantisme. Et donc voilà, ne vous étonnez pas si c'est la tendance est catholique, c'est parce que le commanditaire de la pièce était catholique. Mais il y a également le fait que le texte est en latin, donc il y avait vraiment une volonté finalement qui était plus que simplement catholique. On pense aussi que c'était une œuvre assez œcuménique, donc quelque chose d'ouvert. Et finalement, ça se retrouve bien dans la sainteté, puisque à partir du moment où on parle de saint et de ciel et de la terre, évidemment, il y a une volonté purement expansionniste et de s'adresser à tous. Alors, sans tarder, je vous laisse découvrir, ou redécouvrir pour ceux qui le connaissent, ce Sanctus de la messe en si mineur de Bach, interprété par John Eliot Gardiner.
Thank you.
Et voilà qui donne une pêche d'enfer, si j'ose dire, pour cette seconde partie de la messe en si mineur. Alors, certains grincheux, parmi les critiques, ont souvent décrété que la deuxième partie de la messe en si mineur, donc qui commence par le Sanctus, était assez faible par rapport à la première partie de la messe en si. Il est vrai que quand on voit le monument qu'est le credo de cette fameuse messe en si, que je vous invite à découvrir, on se demande presque ce qu'a voulu parfois dire le compositeur. Mais là, véritablement, le tour de force est présent, et la musique sublime, et cela ne rend finalement que justice à non seulement au compositeur, mais également, bien entendu, à Dieu. Mais là, c'est typique des catholiques, une petite erreur, si j'ose dire, c'est-à-dire de cette espèce de façon de séparer le Sanctus et le Benedictus, parce que si vous avez fait attention aux paroles, vous savez qu'il manque une partie de ce qui est normalement chanté pendant le Sanctus, c'est le Benedictus. Alors je dis que c'est effectivement typique des catholiques, et notamment des Français, de séparer cela. Ça a été le plus long chez les Français, qui ont continué à vraiment séparer, presque à les traiter comme deux œuvres différentes. Alors, dans d'autres régions, ça s'est fait, notamment en Italie. Et il faut savoir qu'en fait, entre le Sanctus et le Benedictus, il y avait un moment tout à fait particulier qu'on appelait l'élévation. Donc en fait, le prêtre prenait l'hostie et la levait et la montrait aux fidèles, et ce qui fait qu'en général, là, il y avait un accompagnement musical. On peut penser aux prières de saint Thomas d'Aquin, au Salutaris Hostias, et bien entendu, d'autres formes de musique extrêmement développées. Et là, on ne peut que citer les très célèbres toccata de Frescobaldi, par exemple, qui jouaient ces toccata per l'élévazione, c'est-à-dire des pièces de méditation, et pour rendre gloire à cette élévation, et ensuite on reprenait le Benedictus, presque comme si de rien n'était. En fait, ça permettait de remettre au centre du jeu la transsubstantation, c'est-à-dire le fait d'avoir le corps du Christ dans cette hostie. C'est pour ça qu'il y avait cette élévation au milieu, finalement, du Sanctus. Donc c'est pour ça que souvent le Sanctus et le Benedictus sont traités à part. Alors aujourd'hui, dans les chants plus modernes, on va dire, ça se fait beaucoup moins. Mais Bach, lui, les a bien distingués. Et vous allez voir que les choses sont totalement différentes quand on va s'attaquer, si j'ose dire, au Benedictus. Vous allez voir, là, la chose est beaucoup plus récitative, beaucoup plus interne, finalement. Mais finalement, c'est logique, parce que, comme souvent, Bach construit ses choses en miroir, et donc, en fait, ce Benedictus se situe entre deux Hosanna beaucoup plus prégnants, beaucoup plus forts, beaucoup plus triomphants, et c'est pour ça, finalement, que nous avons toujours cette musique qui se fait en miroir. Donc là, je vous laisse découvrir le Benedictus de cette fameuse messe en si de Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
et ainsi presque suspendu par la douceur se termine ce fameux Benedictus de la messe en si de Bach. Il est, comme je vous le disais, assez extraordinaire. Bon, alors on a un retour à la tonalité principale, si j'ose dire, en tout cas par laquelle est dénominée l'œuvre. Donc on est en si mineur, donc quelque chose de beaucoup plus intimiste, comme je vous le disais tout à l'heure. On n'est plus sur ce ré majeur triomphant, on est sur ce si mineur beaucoup plus intime. Vous avez cette espèce de dialogue, en tout cas de symbiose entre la flûte et le ténor soliste qui vient dérouler ce texte presque comme il était seul. Et c'est extraordinaire de voir que cette solitude se fait entre deux hosanna absolument gigantesques, énormes, et qui rappellent sur à quel point la sainteté de Dieu n'a finalement pas de mesure. Donc c'est ça qui est extraordinaire dans cette œuvre, c'est finalement la pluralité des tons qu'a mis le compositeur au service donc d'un texte assez puissant là aussi. Et maintenant, nous allons embarquer donc dans une période bien plus contemporaine. Vous avez vu que nous suivions une messe depuis le début de ces chroniques. Donc on va continuer, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Et on va continuer d'écouter cette messe incroyable qu'est la Berliner Messe de Arvo Pärt. Et écouter son Sanctus. Là, attention, ça n'a bien entendu rien à voir. On reste dans des sonorités beaucoup plus particulière, on va dire en tout cas, qui se télescope, mais qui laisse finalement une ambiance absolument incroyable, toujours avec ces fameuses cordes, les violons, mais également des instruments bien plus graves, bien entendu, qui viennent déployer là aussi, de la même manière que vous aviez chez Bach, cette différence entre la terre et les cieux. Là aussi, vous avez beaucoup de graves et beaucoup d'aigus qui peuvent symboliser ça, mais il y a surtout une profonde et intense gravité dans ce Sanctus, très différent, très intérieur, que je vous invite à découvrir tout de suite, donc le Sanctus de la Berliner Messe d'Arvo Pärt. Encore le génie du compositeur s'est exprimé jusqu'à cette fin suspendu. On attend une chute différente. Et c'est là, en fait, quand on écoute ce Sanctus extrêmement dramatique, presque plaintif, qu'on a une autre idée qui nous vient en tête. Là où Jean-Sébastien Bach mettait en avant la sainteté et la gloire de Dieu en avant, chantée par les séraphins avec leurs ailes enflammées, ici on a quelque chose de beaucoup plus lancinant, douloureux. Le ciel est ramené brutalement au sol par ces sons qui se répercutent et qui se frottent, désagréables. Et en fait, quand on entend Hosanna in excelsis, en fait, on pense à autre chose, on pense plus à la gloire de Dieu, mais on pense tout simplement à l'entrée de Jésus à Jérusalem, entrée qui symbolise finalement la mort du Christ, puisque c'est à Jérusalem qu'il sera jugé et condamné. Et en fait, on a cette perspective, je pense que c'est ce qu'a voulu mettre en avant le compositeur, de la mort du Christ qui va venir, sous ces cris, sous ces vivats de la foule qui chantait Hosanna, mais qui finalement vont l'envoyer sur le bois de la croix. Je pense que c'est un tour de force qu'a réussi ici le compositeur, avec cette musique puissante, poignante, de nous montrer que finalement il y a d'autres symboliques sur quelque chose d'aussi particulier que le Sanctus. Voilà, nous en avons donc terminé pour aujourd'hui avec ce magnifique répertoire qu'est le Sanctus. Et la semaine prochaine, si vous le voulez bien, nous allons continuer et terminer notre voyage dans l'ordinaire de la messe en écoutant parmi les plus beaux Agnus Dei que nous offre le répertoire. Je vous souhaite une très belle fin de journée.